Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Jean-Claude Rouchouz. Bonjour.
Bonjour.
Ensemble, nous allons parler de cette association que vous avez montée, que vous présidez, l'association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme, ASCFD. Tiens, pour une fois qu'on voit comment est-ce qu'on peut le dire vite, ça va être très très bien. Cette association qu'on a suivie depuis le début. Hein,
sur oui, depuis avril 2012,
sa création.
À peu près. Enfin, elle a été créée en avril 2012, à Die.
Allez, on se fait un petit historique puisque vous me lancez là-dessus.
Eh bien, c'est une association que l'on a créée avec 4 ou 5 personnes parce qu'on s'était aperçu que beaucoup de cimetières familiaux étaient en état d'abandon. En état de ruine. Puis on s'est aperçu aussi que personne ne les avait répertoriés de façon très précise, cimetière par cimetière, sur tout le département.
Dans quel but d'ailleurs ils auraient pu être répertoriés déjà à l'époque ?
Eh bien, ils n'ont jamais été répertoriés, sauf par un historien, quelques historiens, comme Jacques Couriol, qui par exemple ont fait des études commune par commune. Et dans certains cas, ils disent, ben, dans cette commune, on a 5 cimetières familiaux. Donc, ils ont cité l'existence des cimetières familiaux dans leurs travaux d'historiens. Mais la description de chaque cimetière familial, avec est-ce qu'il est entretenu ou pas entretenu, est-ce qu'il y a des personnalités qui sont enterrées dans ce cimetière, qui est enterré, quelle est sa surface, est-ce qu'il a des arbres intéressants ou est-ce qu'il est en ruine envahie par la végétation, ça n'a jamais été fait, alors que, bien sûr, ces cimetières sont anciens, puisqu'ils sont liés à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en octobre 1685, qui interdisait la religion protestante. Alors, comme les protestants, sauf s'ils se convertissaient, ne pouvaient pas être enterrés dans les cimetières paroissiaux catholiques, il n'y avait que des cimetières paroissiaux catholiques à cette époque, ils s'enterraient en secret dans leur champ, la nuit, et la tradition est restée. La tradition est restée, et cette possibilité d'être enterré dans son champ, dans sa propriété, est restée. Il y a une loi de Napoléon Ier qui l'autorise, et elle est toujours valable. Mm-hmm. Hein, oui, si bien qu'on a des cimetières familiaux qui sont catholiques,
oui.
ou des gens qui n'ont pas de conviction religieuse. Parce qu'on peut toujours se créer son propre cimetière dans sa propriété, à condition d'avoir un accord hydrogéologique, donc l'accord de la préfecture.
C'est ça, voilà. Pour pas que ça déverse hein, dans des
voilà.
eaux.
Donc c'est une tradition qui se perpétue. La grosse difficulté qu'il y a, c'est que ce sont des cimetières privés. Donc ils ne sont pas entretenus par les communes, contrairement aux cimetières communaux. Ils sont privés. Et bien entendu, vous avez des familles qui n'ont pas de descendants. Et puis, les cousins se désintéressent, et puis ça part, voilà. Donc à ce moment-là, plus personne n'entretient le cimetière, et qui est envahi par la végétation et qui est en ruine. Quoi.
Alors c'est une vocation peut-être, ou en tout cas une orientation vers un travail d'historien, enfin de patrimonial.
Voilà, c'est tout à fait, c'est une association laïque, départementale, parce qu'on se réduit, il y a déjà suffisamment de travail, au département de la Drôme, et dont le but est de valoriser ces cimetières, d'en entretenir quelques-uns sur demande, d'en restaurer quelques-uns, mais l'association, une petite association qui n'a pas beaucoup de moyens, on va en restaurer un à Die, par exemple, en 2017. Et puis, moi j'ai fait pas mal de conférences sur ce sujet. De faire cet inventaire, ça enrichit au niveau des conférences. Et puis, on vient de publier un fascicule sur l'histoire des cimetières familiaux.
Voilà, une dizaine de pages sur cette
une
histoire.
Une trentaine même.
Hein, ouais. C'est ça, j'allais dire, recto verso. Sur cette histoire-là, alors notamment, il y a évidemment tout le lien avec l'époque de l'édit de Nantes Oui, d'abord,
ouais,
jusqu'à
ouais.
sa révocation, où on va pouvoir du coup le faire légalement. Cette loi de Napoléon, où ça y est, c'est autorisé pour tout le monde. Et
Ouais.
puis, une histoire du, quand même locale, forcément,
Ah
ça
bah bien
croustille
sûr,
de.
bien sûr. Parce que enfin le Diois, mais aussi Bourdeau, Dieulefit, ont été des grandes régions protestantes.
Voilà, des fiefs même,
À
ouais.
l'époque de Louis XIV, il y avait des villages où il y avait 100% de protestants. Donc à la révocation, soit ils se sont convertis, soit ils sont partis en exil. Il y a des villages qui ont perdu un tiers de leur population. Ils sont partis en exil en Suisse, en Allemagne. Il y a une espèce de bizarre renouveau de cette actualité, d'où le jumelage de Die avec Louisendorf,
Voilà,
qui
c'est
a
là que ouais.
reçu en exil des protestants à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV.
Voilà.
À nouveau, un renouveau, ce qu'on appelle le sentier des Huguenots, le pas des Huguenots, qui est un sentier de grande randonnée, homologué maintenant, qui va de Poëte-Laval jusqu'en Allemagne du Nord. C'est le sentier de l'exil, et qui est fléché maintenant avec des documents, des gîtes tous les 30 kilomètres, voilà. Mais ça, c'est très récent. C'est depuis 1990.
Quelle grande découverte vous a permis cette étude des cimetières familiaux du Diois, par exemple? Là, quelque chose qu'on avait oublié, perdu.
Ah ben, d'abord, on est étonné par le nombre des cimetières familiaux. Par exemple, pour la vallée de Quin, c'est Pierre Martin qui a fait cet inventaire. On va probablement arriver à 110 cimetières familiaux
Sur
dans la
cinq
vallée de Quin.
communes seulement.
Voilà. Alors, on note même ceux qui ont disparu. Parce que, par exemple, vous pouvez rencontrer une personne âgée qui vous dit: Ah, mais monsieur un tel, il s'est enterré dans son champ, anonymement, il n'y a pas de plaque, y a pas, mais il est là, enfin, il a été enterré là. Donc, on a des exemples comme ça. Et quand on fait le bilan de ceux qui sont entretenus, parce qu'il y en a qui sont soigneusement entretenus, hein, entretenus une fois par an à la Toussaint, ou abandonné parce qu'il n'y a plus de descendants, on arrive à 105 pour la vallée de Quin. Pour Poyolles, on dépasse les 27. Pour Minglon, on n'a pas terminé, il y en a probablement une quarantaine. Et bizarrement, par contre, vous pouvez très bien avoir des villages qui étaient restés catholiques où il n'y en a aucun. Miscon, pas de cimetières familiaux. Jonchère, à côté de Poyolles, zéro cimetière familiaux. Die, il y en a une dizaine.
Oui, c'est ça, à Jonchère, juste au-dessus de Poyolles, et Poyolles, il y en a plein.
Il y a Poyolles 29 et Jonchère 0. Alors bien sûr, il y a des. Bien sûr, comme dans
Oui.
tous les cimetières communaux, il y a des personnalités qui ont laissé une trace, etc. Donc dans certains cas, quand on va dans un cimetière où on sait qu'il y a une personnalité, bah, éventuellement, on se renseigne un peu sur la personnalité, on rassemble des informations. Vous avez une personnalité assez importante qui est enterrée dans un cimetière familial à Bourdeaux, qui s'appelle Alexis Muston, qui a été pasteur à Bourdeaux fin 19e pendant longtemps, et qui a été surtout c'était un excellent dessinateur, un herboriste, il soignait par les plantes, et il a été l'historien des Vaudois. Le mouvement des Vaudois,
Ouais.
c'était le grand historien des Vaudois. Il communiquait avec les personnalités de l'époque. C'était un peu l'équivalent pour le 19e de Marc Bœgner pour le 20e. Voilà. Donc on a Adrien Gilloin, un poète à Molière-Glandaz. À Poyolles, il y a le député Archimbaud. Voilà, ouais, c'est assez varié et des fois il y a des découvertes. Voilà.
Cette recherche autour des cimetières familiaux vient-elle aussi rejoindre celle des cimetières classiques, hein, communaux ou paroissiaux, comme il y en avait à l'époque,
Bien
pour.
sûr, bah ça se rejoint déjà au niveau vraiment du patrimoine, donc des
Des
stèles,
stèles.
des colonnes. Des fois, on a des colonnes brisées, hein, qui sont symboliques de quelqu'un qui est décédé jeune. On retrouve ce symbole de la colonne brisée
Ah
dans les
tiens, je ne
cimetières
savais pas.
familiaux et dans les cimetières communaux. C'est le même symbole, hein.
Ouais, je ne connaissais pas celui-là, par
Ouais,
exemple.
oui, oui, oui,
Ouais,
oui, oui, oui.
très bien.
Alors,
Les
on retrouve aussi à une époque, il y avait la mode des couronnes de perles, très
Oui.
belles couronnes de perles. Il y en a quelques-unes qui sont encore en bon état, mais malheureusement, comme c'est un fil de fer qui relie les perles, le fil rouille et elles se détruisent avec le temps. Mais on a quelques exemples de couronnes de perles dans les cimetières familiaux et dans les cimetières communaux.
Jean-Claude Rouchouz, vous êtes avec nous aujourd'hui aussi pour parler de cette assemblée générale le 18 mars prochain de l'Association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme. Elle se tiendra à Cray.
Oui. Donc, parce que comme on est une association départementale, on essaie de varier un peu les lieux de l'Assemblée générale. L'année dernière, c'était à Vercheny. Là, on le fait à Cray pour la première fois. Donc, c'est le samedi 18 mars à 17h à la salle municipale des Acacias à Cray, qui est 30 mètres au-dessus du temple de Cray. Et il y a éventuellement, pour ceux qui le veulent, une petite possibilité de venir à 15h au même endroit, salle des Acacias, et on leur fait faire une petite balade parce que du temple de Cray, on peut aller assez facilement au pied de la tour de Cray. Malheureusement, la tour de Cray, elle est fermée, donc on ne peut pas la visiter. Mais en fait, derrière la tour de Cray, il y a, on peut dire, trois curiosités. Première curiosité, il y a un cimetière familial qui est, semble-t-il, le seul qui existe sur la commune de Cray, derrière la tour, qui est probablement catholique, d'ailleurs.
Ah.
Oui. Il y a le point de vue sur Cray, comme vous êtes en haut, vous avez le point de vue sur Cray. Et il y a une curiosité géologique, parce qu'il y a une espèce de petite falaise de 10 mètres de haut, où il y a des fossiles qui sont visibles. Parce que c'est dû au fait que la mer à Cray, elle était encore à Cray il y a 20 millions d'années. Tandis que dans le Diois, elle s'est retirée il y a 60 millions d'années. Mais à Cray, elle est restée beaucoup plus longtemps. Donc on a une couche qu'on appelle du Miocène, avec des fossiles marins que l'on voit, et qui sont derrière la tour de Cray. Alors c'est une curiosité quand même, hein, d'avoir des fossiles marins derrière la tour de Cray. Voilà.
À cette altitude, c'est toujours d'ailleurs en altitude qu'on les trouve les plus facilement.
Ouais.
Car on peut le citer, avec Jean-Claude Rouchouz, vous n'avez pas seulement le président de l'Association des cimetières familiaux de la Drôme, mais aussi un géologue.
Oui, voilà, géologue, mycologue.
Mycologue, averti.
Voilà.
Avec tout un tas de rôles dans d'autres associations. Qu'allez-vous proposer pour cette AG du 18 mars ?
Ah ben pour l'AG, on fait le bilan, bien sûr, comme classiquement, hein, le bilan de ce qui a été fait en 2016. Il y a eu des conférences et il y a eu donc l'édition de ce fascicule qui, là, on avait fait un petit tirage qui est épuisé, on refait un tirage et il sera bientôt en vente à la librairie Mosaïque Adi. Donc on va refaire cette histoire. J'ai fait pas mal de conférences, hein, en 2016. Il y en a eu une ADI assez importante où il y avait en janvier 2016 où il y avait 70 personnes. Et surtout, elle est passée aussi. Elle passe sur YouTube. Donc sur YouTube, si on fait cimetière familial Drôme, on peut réentendre cette conférence de janvier 2016. Elle a dû être visualisée 1500 fois, quelque chose comme ça. Hein? Donc il y a eu ça. Il y a eu l'entretien de quelques cimetières, le projet de rénovation d'un cimetière à Adi, qui sera une curiosité, parce que c'est le cimetière totalement anonyme actuellement sur une petite colline près de Adi, d'un ancien maire de Adi. Audifray, un ancien maire qui était un catholique fervent. Il n'est pas resté maire longtemps, hein, 6 mois. Par contre, il a eu un rôle de donateur important parce qu'il a donné des terrains pour l'hôpital de Die. Voilà. Donc, il a vraiment donné une petite fortune à l'hôpital de Die. Hein. Et sa tombe est totalement anonyme. Il n'y a même pas un nom. Donc, on veut mettre une petite stèle avec le nom lieutenant-colonel Audifray. Voilà. Donc, voilà, y a ça qui doit se faire en 2017. Il va y avoir un panneau à Val-Croissant qui présente l'abbaye, mais qui présente aussi les cimetières familiaux, parce qu'on a deux cimetières familiaux au pas de la Roche, avant Val-Croissant. Là, il y a deux cimetières familiaux, dont un que l'on a restauré. L'un de ces cimetières familiaux, c'était en fait d'anciens propriétaires de l'abbaye de Val-Croissant. C'était un couple de un pasteur avec sa femme. C'était fin 19e. Ils ont voulu créer, leur projet, c'était de créer un orphelinat. Et malheureusement, tous les deux sont décédés à 40 ans, 45 ans. Donc ça ne s'est pas fait. Voilà, donc il y a deux cimetières familiaux un peu avant l'abbaye de Val-Croissant. À Die, les cimetières familiaux, ils sont du côté de Val-Croissant, il y en a au moins six, et il y en a deux du côté d'Ausson. Et il n'y en a pas ailleurs.
Dans la ville, on a recouvert les cimetières aujourd'hui avec des places. Hein.
Oui.
On l'a découvert.
En fait, il y a eu, bien entendu, un cimetière protestant important à une époque. Ouais. Mais à la révocation de la Die de Nantes, il a été détruit. Voilà, mais complètement ça. Détruit. Mm-hmm. Complètement. Il était vers U, dans ce coin-là.
Voilà, c'est ça. Et le cimetière catholique paroissial a été recouvert aussi, finalement,
oui.
Hein, quelques années plus tard.
Et alors, par contre, le cimetière communal de Die, il a deux entrées. C'était une entrée pour les protestants, petite,
ouais.
Et une grande pour les catholiques. Il y a deux entrées. On a le même cas à Espenel. C'est encore mieux à Espenel, parce qu'à Espenel, il y a une entrée avec un chemin d'accès pour les protestants. Et de l'autre côté, pour le même cimetière, qui est communal maintenant, hein, il y a une autre, c'était l'autre entrée pour les catholiques. Et il y avait un mur qui séparait le cimetière en deux, côté protestant, côté catholique. Le mur a été détruit. Alors maintenant, c'est le cimetière communal. Hein.
Ouais. Bon. Et alors là, à Espenel, c'était les protestants qui avaient la plus grande allée.
Non, c'était l'égalité. Ouais. C'était à peu près c'était l'égalité. Là. Donc il y a des histoires comme ça. Voilà. Bien sûr, comme c'était interdit au début, c'était totalement anonyme. Et alors c'est finalement le bon roi Louis XVI, qui est meilleur que ce que l'on dit des fois, qui a fait un édit de tolérance en 1787, qui a redonné aux non-catholiques leurs droits, sauf le droit de culte. Mais à la Révolution française, donc 2 ans après, les protestants, alors, et puis la communauté juive, ils ont retrouvé tous leurs droits, y compris le droit de culte. Et par contre, c'était rémunéré par l'État. Sous Napoléon Ier, les pasteurs et les curés étaient payés par l'État. Et c'est la loi de 1905 qui a arrêté, qui a instauré une laïcité, mais qui a entraîné le fait que les curés, les pasteurs, les rabbins, les imams ne sont plus rémunérés par l'État. Hein bon, les protestants ont plutôt soutenu la loi de 1905. Les catholiques n'étaient pas très contents parce que quand même, c'était une sacrée perte de revenus. Et ça a entraîné d'ailleurs un peu un exil de certains catholiques, hein, la loi de 1905.
Est-ce qu'ils n'auraient pas pu être mieux contrôlés si l'État avait continué de les payer ?
Oui, peut-être. ça, c'est sûr. Mais là, bon. C'est la liberté. Enfin bon. Donc,
alors, on va pas refaire la politique maintenant.
Ouais.
Rendez-vous donc ce 18 mars, on a dit dès 16h, hein, si on veut faire la balade.
17h. Alors, il y a 17h pour l'Assemblée Générale, salle des Acacias au-dessus du Temple de Cré. Et pour ceux qui veulent faire une petite balade, c'est à 15h, salle des Acacias au-dessus du Temple de Cré, le samedi 18 mars.
Cette Assemblée Générale, c'est aussi l'occasion peut-être de renouveler des membres ou que
oui,
d'autres
bien sûr. L'association a 85 membres. Hein. En 2016, elle avait 85 membres. Il y a une petite cotisation de 10 euros. Et ça permet de recevoir des informations, d'en avoir, de rencontrer des personnes nouvelles. Parce que on s'intéresse essentiellement aux cimetières familiaux, mais d'une manière générale, à l'histoire des religions. Voilà.
Très ouvert.
On est étonné quand on va dans une commune de découvrir des cimetières familiaux. Enfin, par exemple, sur les cartes IGN, il y a une petite croix qui indique cimetière familial. Donc moi, quand je vois une petite croix dans une commune, je dis « Ah ben là, il faut aller voir, il faut aller prospecter pour voir. » Et en général, on en trouve d'autres. Hein. Les archéologues, ouais. ils se désespèrent de découvrir quelque chose. Mais pour les cimetières familiaux, à chaque fois, on en découvre un. Avec des plantes, des fois. Alors, bien sûr, l'arbre symbolique, ça, c'est comme ça qu'on les repère souvent, c'est le cyprès. Hein, dans un cimetière familial.
Énorme, puisque énorme, ça fait très longtemps
qu'ils ont
là.
300 ans. Ouais, bien sûr. Et bien, il y en a qui ont 200 ans. Donc, de loin, on voit un petit carré ainsi près, dire oh là, là, c'est un cimetière familial. Voilà, il y a des petits trucs comme ça.
Merci Jean-Claude.
Ben, merci
on
bien,
a fait le tour.
Merci à vous.
Voilà, on retrouve cette association et bien aussi sur Internet d'ailleurs, il me semble.
Oui, oui, il y a un site.
Ça y est, c'est parti.
Cimetières familiaux Drôme sur Internet.
Chez WordPress.
Cimetières familiaux Drôme, wordpress.com. Voilà, il y a un site Internet.
Très bien. Et on peut également vous envoyer des mails à cimetières familiaux, tout ça au pluriel, @free.fr. Merci Jean-Claude, on se retrouve quand vous voulez pour
voilà.
La suite.
Entendu. Peut-être pour parler de champignons.
Voilà. Ou de géologie.
Ou de géologie.
Interview. Ok. The bird. Interview. L'interview du jour.